À 8h, le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. 3 cas confirmés en France, les premiers en Europe. L'épidémie de coronavirus se propage hors de Chine, où la ville de Wuhan est en quarantaine, mais des Français qui y vivent pourraient être évacués. Sévère envers le gouvernement, l'avis du Conseil d'État sur la réforme des retraites, alors que des milliers de personnes ont manifesté hier et entendent poursuivre le mouvement. On y reviendra, votre invité à 8h20, Eric.
Oui, ce sera le politologue Dominique Régnier, le directeur général du think tank Fondapol, la fondation pour l'innovation politique.
Un agent de la préfecture de police de Paris pourrait bientôt être radié, soupçonné de radicalisation. Et puis Gaël Monfils, dernier Français à l'Open de tennis d'Australie, qualifié pour les 8e au programme, évidemment, du journal des sports d'Antoine Martin dans 10 minutes.
France Inter.
Alors que le régime communiste interdit tout départ de Wuhan dans le centre de la Chine à cause du coronavirus qui a fait au moins 41 morts et 1300 personnes contaminées dans le pays, la France, où on a diagnostiqué 3 cas, on y reviendra, pourrait faire évacuer ses ressortissants des bus pour quitter la ville. Ce serait en lien avec les autorités locales. Une opération en tout cas se prépare, précision de la correspondante en Chine de France Inter, Dominique André.
Selon les chiffres qui circulent mais qui ne sont pas confirmés par la France, au moins 200 à 250 Français sont pris au piège à Wuhan. L'opération d'évacuation est en cours d'organisation avec l'aide des autorités chinoises locales. Les Français sont recensés, nous dit cet expatrié que nous avons joint par téléphone.
On a eu ces informations comme quoi on allait peut-être être évacué en bus vers une autre ville de Chine. Il faut donc s'inscrire et puis nommer les personnes qui sont susceptibles de partir. Ils sont en train de faire un peu l'état des lieux de tout ça. Et puis après, la décision sera d'être à Changsha, peut-être rester en quarantaine, je ne sais pas encore. Changsha, c'est à environ 2 à 3 heures de véhicule. Ça fait 300 kilomètres, je pense. Après, on aurait le choix, soit de rester à Changsha ou alors de partir là où on voulait. Hein. Donc beaucoup voudraient rentrer en France. Il y en a certains hier qui étaient assez nerveux de devoir rester ici à Wuhan. Je pense que dans la majorité, ceux qui avaient vraiment envie de partir vont être contents de partir.
Il faut rassurer nos familles, ajoute ce Français. Aucun d'entre nous n'est malade. Les Français de Wuhan communiquent avec le consulat général par WeChat, la messagerie chinoise, et ils ont un numéro de téléphone spécifique qui a été mis en place. Pékin, Dominique André, France Inter.
Wuhan, où l'armée a été envoyée ce matin, 450 médecins ou personnel médical. Et en Chine, désormais, 56 millions de personnes sont isolées. Des mesures de dépistage également dans les transports imposées dans tout le pays.
Et en France, donc aussi, 3 premiers cas de ce coronavirus chinois.
2 à Paris, 1 à Bordeaux, des personnes qui ont séjourné en Chine, selon le ministère de la Santé, la ministre Agnès Buzyn, qui a répété hier soir, lors d'une conférence de presse, les mesures pour ceux qui reviennent de Chine et qui ont un doute. Prendre régulièrement sa température, ne pas se rendre aux urgences, mais appeler le SAMU. Enfin, pas de panique pour autant. Serge Smadja est secrétaire général de SOS Médecins France. Son maître mot, c'est rassuré.
On a pu déjà, au bout de quelques semaines, s'apercevoir d'où provenait l'épidémie. On a pu identifier le virus. On va pouvoir, dès la semaine prochaine, avoir un test de diagnostic. Et donc, tout ça, c'est extrêmement rassurant pour essayer de se protéger et de contenir la propagation de la maladie. On est préparé, on est formé. Et encore une fois, les mesures qui peuvent paraître insignifiantes de l'isolement et des mesures barrières, du lavage de mains, de se protéger quand on tousse, sont des mesures essentielles parce que ce sont grâce à ces petits moyens qu'on peut limiter la propagation de la maladie. Donc on reste confiant avec l'habitude qu'on a de traiter en tant que médecin ce type de pathologie.
Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins France, 3 cas donc de coronavirus confirmés en France.
L'autre grand titre de l'actualité, c'est la mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit.
Manifestation partout en France hier, 1 300 000 personnes selon la CGT, 249 000 selon le ministère de l'Intérieur, alors que le gouvernement a adopté le projet de loi en Conseil des ministres. Concernant l'impact à présent de la réforme, le gouvernement a publié une étude de 1000 pages, mais le Conseil d'État hier soir l'a épinglée, Hélène Philly.
Le Conseil d'État est sévère. Il juge l'étude d'impact insuffisante et c'est d'autant plus regrettable, écrit-il, qu'il s'agit d'une réforme inédite depuis 1945. L'avis estime les projections financières lacunaires, sur la hausse de l'âge de départ à la retraite notamment. L'étude d'impact prend une hypothèse conventionnelle de 65 ans pour quelqu'un qui commence à travailler à 22 ans et qui cotise 43 années, une carrière complète. Mais elle ne tient pas compte du fait que cet âge d'équilibre puisse évoluer dans le temps. Le Conseil d'État reconnaît que l'élaboration du projet de loi a été marquée par une concertation approfondie, presque 2 ans avec l'équipe de Jean-Paul Delevoye. Mais l'envoi aux organismes qui devaient émettre un avis, les caisses de retraite notamment, s'est fait dans l'urgence. Le Conseil d'État lui-même n'a eu que 3 semaines pour travailler sur les textes. Il met en garde enfin sur le choix de recourir à 29 ordonnances, y compris pour la définition d'éléments structurants du nouveau système de retraite. Cela fait perdre beaucoup de visibilité à l'ensemble.
Projet de loi débattu à l'Assemblée nationale à partir du 17 février. Pas de quoi décourager les opposants à la réforme. Une journée d'action interprofessionnelle est prévue mercredi. Christine, enseignante, était dans la manif parisienne hier et pour elle, rien n'est encore joué.
Une loi, ça se fait, mais ça peut se défaire. C'est pas du tout un baron d'honneur, hein. Ça, je peux vous dire qu'on va continuer avec plein d'actions différentes, en février, en mars, en avril, jusqu'au retrait. Et aussi, il y a les élections qu'on va faire donc au municipal, hein. Évidemment, ça va compter. Et je vais vous dire une chose, je pense qu'Emmanuel Macron, il a perdu les élections présidentielles, parce que le seul candidat ou une candidate qui dira « nous, on revient à la réforme et on va travailler avec les syndicats pour l'améliorer », il gagne les élections.
Et avant la présidentielle, il y a les élections municipales, premier tour 15 mars. Et on poursuit sur Inter notre Tour de France des villes. Ce matin dans le Var, Fréjus, 55 000 habitants, plus grande commune conquise par le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, c'était en 2014. Le maire David Racheline est en campagne et face à lui, Maxence Lambrec, une sorte de Front Républicain.
La République En Marche, le Modem, l'UDI, les Républicains et même les Verts de la circonscription dans le même bateau anti-RN. C'est contre-productif pour le candidat de gauche, Julien Poussin.
La majorité des habitants ne se retrouveront pas sur cette liste ratatouille qui regroupe toutes les personnalités rejetées depuis ces dernières années et des comportements dont les gens ne veulent plus, des alliances surtout de personnes et pas de projets.
Cette liste ratatouille, comme il dit, est portée par Laurence Fradge, une candidate qui manque encore de charisme et de notoriété, mais pas de munitions contre David Racheline.
Ces 6 ans à la mairie ont été marqués par une vente massive du patrimoine municipal puisque le maire a vendu pour 48 millions de terrains municipaux. Il n'a aucune vision et c'est vraiment une gestion d'amateur.
Manque de compétences, bétonnage de la ville, le maire répond logements sociaux, désendettement, stabilité des impôts. Il joue au bon gestionnaire sans l'étiquette RN. Il se réjouit d'affronter aussi une dissidente LR, un ex-UDI, son ancien premier adjoint, un patron de camping. Un émiettement qu'il rentrait sûr de lui.
Je ne vois pas qu'il y ait de candidature capable de porter un projet raisonnable pour la commune et surtout de le mener à bien parce qu'il faut avoir les qualités pour être maire et je n'en vois pas vraiment.
Tous se disent en tout cas prêts à faire un front commun au second tour pour l'empêcher aussi de décrocher la communauté d'agglomération qui paraît aujourd'hui à sa portée.
Maxence Lambrec.
Voilà maintenant une information France Inter à propos d'un agent administratif de la préfecture de police de Paris. Il a été signalé pour des soupçons de radicalisation. Bien, cet homme pourrait être prochainement radié.
Oui, le signalement date d'il y a 3 ans, bien après donc l'attaque au couteau par un agent administratif qui a fait 4 morts en octobre dernier. Il s'agit d'un fonctionnaire en poste à l'accueil dans un commissariat du sud de la Seine-Saint-Denis. Surveillé par les services de renseignement, il pourrait être le premier renvoyé devant la nouvelle commission interministérielle de prévention de la radicalisation dans la fonction publique. Emmanuel Leclerc.
Il est apparenté à l'un des tueurs du Bataclan, confie l'un des proches du dossier. C'est son épouse, précise une autre source. Elle a un lien dans son cercle familial proche. Si cet agent ne s'était pas mis en arrêt maladie longue durée, poursuit la même source, il aurait été suspendu depuis longtemps et aurait été convoqué devant un conseil de discipline. Il ne voulait pas être dans le même bureau que des femmes. Il a mal répercuté une déposition d'une personne qui voulait signaler un départ vers la Syrie, confie un commissaire présent dans le département de la Seine-Saint-Denis à cette époque. Par contre, rien n'a ce stade, après 3 ans de surveillance par les services de renseignement, ne permet de soupçonner un risque de radicalisation violente, d'où le fait qu'il n'y ait pas eu de saisine du parquet national antiterroriste. Il n'en reste pas moins que ce cas pose pour la première fois concrètement le problème d'une radicalisation religieuse au sein du ministère de l'Intérieur. L'article L114-1 du Code de la Sécurité Intérieure permet désormais de s'appuyer sur des enquêtes administratives pour des soupçons, y compris dans la sphère privée, de radicalisation religieuse qui entrerait en contradiction avec les valeurs républicaines et l'exercice de certaines fonctions dans la police.
Emmanuel Leclerc et Elodie Guéguin, auteurs d'une enquête à suivre à 13h20 dans Secret d'Info, l'émission d'investigation d'Inter en podcast également sur notre site internet. Ni rançon ni revendication pour le moment après la disparition lundi à Bagdad en Irak de 4 collaborateurs expérimentés de l'ONG française SOS Chrétien d'Orient, 3 Français et 1 Irakien. Et puis ce tweet, un plus de Donald Trump qui amuse bien les réseaux sociaux de depuis hier. Le président américain a révélé le logo de la 6e branche des forces armées des États-Unis. Et bien, il ressemble beaucoup ce logo à celui de la Starfleet. C'est la flotte spatiale, vous savez, l'univers Star Trek, la série dont on entend le générique. Mais réponse du Pentagone dans un communiqué, le symbole Delta, puisque c'est celui-là, avait été utilisé par les forces aériennes américaines dès 42, soit 5 ans avant la création de Star Trek. Enfin, on voit quand même le Pentagone un petit peu gêné.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.